Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet ou celui des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Peut-être certains d'entre vous sont ici pour la première fois. Alors soyez ici chez vous, dans cette maison où nous sommes venus pour nous ouvrir à la présence de Dieu dans notre contexte actuel, rempli de souffrance et d'inquiétude, parce que les hommes prennent à nouveau le chemin de la folie guerrière. Et il y a 3 jours, les forces de la Fédération de Russie sont entrées en Ukraine. Ce conflit ne peut laisser personne indifférent, parce que personne ne sait où il nous mènera vraiment. Ce culte oscillera entre gravité et espérance. Alors un merci en particulier à Alexandre Korovitch pour son accompagnement musical. Et je vous invite à la prière. Éternel, tu es là au milieu de nous. C'est toi qui nous offres ce temps de culte pour accueillir une parole qui féconde notre existence au milieu des angoisses et des tourments. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des frères et des sœurs notre adoration et notre prière. Amen. Nous ouvrons ce culte en prenant la liturgie qui se trouve à l'entrée du psautier français. Nous chanterons « Bénissons Dieu, le seul Seigneur » et je vous invite à vous lever. Dieu avec un extrait du psaume 27. Je chanterai car Dieu est ma lumière. Sous son regard, de qui aurais-je peur? J'exalterai celui qui me libère, gardé par lui, je n'ai plus de frayeur. Si l'ennemi cherche à me dévorer, c'est lui soudain qui succombe à l'effroi. Quand une armée camperait devant moi, je me tiendrais près de toi, assuré. Ô mon Dieu, je ne t'adresse qu'une demande, de te louer parmi tes serviteurs, pour apporter devant toi mon offrande et longuement contempler ta splendeur. Vers toi, qui dans l'épreuve fut un abri, monte déjà la ferveur de nos chants. Amis, frères et sœurs, je vous invite à poursuivre notre louange en prenant le chant du psaume 42 dans le psautier français. Nous chanterons de ce psaume les strophes 1, 2, 3 et 4.
Oh,
Prenez place. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu vivras. Prions ensemble. Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi. Fais-moi la grâce de me répondre. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, maintenant, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas, toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, toi, le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Montre-moi la voie que tu me traces. Dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Que deviendrais-je si je n'avais l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Dieu entend notre prière et voici ce qu'il répond. Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, reprends courage, le Seigneur est fidèle. Compte patiemment sur le Seigneur. Chantons à Dieu notre reconnaissance. nous confesserons notre foi avec les mots de Dietrich Bonhoeffer. Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin des êtres humains pour lesquels toute chose concourt au bien. Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu'il n'est pas non plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables et qu'il y répond. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Prenez place. Aujourd'hui, nous lirons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8, les versets 4 à 15. Comme une grande foule se réunissait et que de toutes les villes on venait à lui, Jésus dit en parabole « Le semeur est sorti pour semer sa semence. Comme il semait, du grain est tombé à bord du chemin, on l'a piétiné et les oiseaux du ciel ont tout mangé. » D'autres grains est tombé sur la pierre. Il a poussé, séché, faute d'humidité. D'autres grains est tombé au milieu des épines. En poussant avec lui, les épines l'ont étouffé. D'autres grains est tombé dans la bonne terre. Il a poussé et produit du fruit au centuple. Sur quoi Jésus s'écria « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende !» Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il dit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, c'est en parabole, pour qu'ils voient sans voir et qu'ils entendent sans comprendre. » Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis vient le diable et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre, ce sont ceux qui accueillent la parole avec joie lorsqu'ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Pendant un moment, ils croient, mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui entendent et qui, du fait des soucis ou des richesses et des plaisirs de la vie, sont étouffés en cours de route et n'arrivent pas à maturité. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon, qui la retiennent et portent du fruit à force de persévérance. Éternel, merci pour ta parole qui reste une lumière sur notre sentier. Amen. Dans le recueil Louange et prière, nous prendrons maintenant le cantique numéro 176. Et de ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Et nous prions. Éternel Dieu de la vie, nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa parole, il annonce la vie du royaume. Il interroge, il bouscule, il nous appelle à une vie nouvelle. Il élargit notre compréhension du monde. Il convertit nos pensées, notre regard. Nous te rendons grâce pour Jésus, le Christ. Par sa parole, il nourrit le tout de notre vie, ce qu'elle est capable de penser, de ressentir, d'exprimer, de partager. Il parle à nos peurs, il pense nos blessures, il offre une histoire nouvelle à vivre, il construit notre confiance, il fonde notre espérance. Éternel, quand Jésus, le Christ, nous parle en parabole, c'est toi qui viens jusqu'à nous. Grâce te soit rendue. Amen. Amis, frères et sœurs, au début de la semaine, j'avais envie de commencer ce message dominical par un clin d'œil humoristique. Par exemple, pour une fois que Jésus donne une explication compréhensible de son enseignement en parabole, finalement, nous n'avons peut-être pas besoin de rester pour la prédication. Mais il se trouve que cette semaine a été chargée en difficultés de toutes sortes. Avec des accompagnements de personnes en fin de vie, de familles en deuil, de personnes en proie à la solitude ou à la maladie. Et puis, depuis jeudi, ces bruits de bottes qui se sont révélés, hélas, de plus en plus menaçants jusqu'à devenir concrets sur le versant oriental de l'Europe, réveillant ainsi de mauvais souvenirs très inquiétants et qui ne laissent personne indifférent. Une semaine difficile donc où nous avons pourtant essayé, là où nous étions avec celles et ceux qui ont été à nos côtés, que ce soit physiquement, par téléphone, de partager nos craintes, nos révoltes, nos découragements face à la nouvelle folie guerrière du monde. Et ce faisant, nous nous sommes accompagnés les uns les autres autour de la parole partagée ou de la prière murmurée lors d'une rencontre. Nous avons essayé de rester fidèles du mieux que nous avons pu avec ce que nous sommes, avec ce que nous savons du Christ, avec ce qu'il nous demande d'être à partir de ce que nous savons ou de ce que nous avons appris de lui. La parabole du semeur est certainement un classique de la prédication. C'est un des textes les plus connus de l'Évangile, et si le texte date d'il y a environ 2000 ans, la parole qu'il véhicule reste toujours neuve, et c'est ce qui fait sa force. Je vous propose donc de relire cette parabole, même si Jésus en donne l'explication à ses disciples, à la lumière de ce que nous partageons en Église, ici à l'Oratoire du Louvre, ou ailleurs dans d'autres églises locales, mais aussi et surtout à partir de nos expériences personnelles, de nos rencontres, de nos terrains, autrement dit nos chemins de vie respectifs, ce que nous appellerons pour aujourd'hui la catéchèse de la vie. À travers cette parabole, qui est un genre d'expression que Jésus affectionne particulièrement, je vous propose aussi de découvrir la personne de Jésus et de voir comment il réussit à nous intéresser à cette histoire de graines qui meurent sur un terrain ingrat ou qui se multiplient en tombant dans la bonne terre. L'auditoire de Jésus a l'habitude des paraboles. C'est un procédé connu en Israël au moment où Jésus enseigne. La foule nombreuse réunie autour de Jésus pour l'écouter est curieuse de ce qu'il va dire et Jésus raconte alors une histoire de graines. Au départ, cette histoire parle à tout le monde, petits et grands, chacun avec ses références. Tout le monde sait que la vie de chacun dépend de la bonne ou de la mauvaise récolte. Les paysans comme les citadins, qui entretiennent des relations les uns avec les autres pour se nourrir. Et Jésus veut captiver son auditoire sans perdre une minute et il utilise trois formules pour cela. La première, il insiste sur la répétition du mot, des mots, semeur, semer, semence, qui grave bien le thème de l'histoire dans la mémoire. Il rentre dans le vif du sujet sans aucune introduction. Il conclut d'une façon abrupte avec cette phrase qui ressemble à une sentence que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors chacun entend cette histoire du semeur et en même temps, personne n'est dupe. Et c'est exactement là le sens de l'exercice de la parabole. Dans cette histoire, rien n'est tout à fait vrai, mais tout est possible. Et en entendant, en écoutant, on sent qu'il y a un message caché qu'il faut prendre le temps de décrypter. La parabole suggère des images que nous sommes invités à nous approprier. Elle fait travailler notre imaginaire et c'est à nous de repérer ce que l'image du semeur évoque en nous. Le semeur renvoie à l'auditeur de la parabole. D'abord, c'est nous, nous dans la vie de tous les jours, avant de découvrir une autre signification, avant de nous renvoyer à une autre explication plus théologique qui consisterait à dire que le semeur, c'est Dieu. Eh bien, il se trouve que le semeur, c'est d'abord le miroir de notre personne. De même, la semence qui connaît des déboires avec une destinée précise rappelle nos propres déboires et notre propre destinée. La semence tombe sur un chemin piétiné ou alors elle se perd dans les ronces. Heureusement, elle tombe tout de même sur une terre accueillante. Nous suivons pas à pas la destinée de la semence et ce qui lui arrive ne nous laisse pas indifférents. Nous réagissons bien quand elle tombe en terre accueillante, nous réagissons autrement quand elle tombe en terrain hostile. Quoi qu'il en soit, la parabole suggère notre investissement et capte toute notre attention. La parabole permet aussi d'évoquer le royaume de Dieu sans le nommer, sans le définir, sans l'expliquer. Pourtant, Jésus livre à celles et ceux qui l'écoutent les mystères du royaume de Dieu. Ce royaume toujours suggéré, mais jamais dévoilé. C'est donc une autre manière de le chercher finalement. La parabole est une façon de nous dire, à nous auditeurs d'aujourd'hui, que le royaume est à rechercher et non à acquérir, qu'il est plutôt de l'ordre du désir, en quelque sorte, plutôt que de la connaissance intellectuelle. Et Jésus fait en quelque sorte pressentir la joie d'une semence qui germe et grandit sur un bon terrain. Il suggère aussi la peine et la déception face à la semence qui reste stérile. Alors c'est à nous de nous positionner par rapport au désir que ce récit fait naître en nous. Mais l'essentiel, c'est que Jésus en profite pour creuser en nous le désir du royaume de Dieu. Il ne dit rien de théologique sur ce royaume, il ne donne aucune définition, aucune certitude, simplement la parabole renvoie à la vie, à un parcours de vie. Naître, grandir, se développer, arriver à maturité, et cela concerne autant la semence que l'être humain. Jésus ne propose pas de vérité clé en main, il n'impose pas de données dogmatiques, mais il invite tout simplement son auditoire à imaginer, à faire lui-même la comparaison entre le semeur et lui, entre le semeur et Dieu, entre la croissance de la graine et sa propre croissance, entre la fécondité de la graine et la fécondité de l'amour de Dieu en lui, qui va permettre dans un temps plus ou moins court d'affiner sa relation avec l'autre et avec Dieu. Sur quoi Jésus s'écrit « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Si nous avons entendu la parabole et aussi l'explication que Jésus en donne à ses disciples, peut-être avez-vous remarqué quelque chose qui vous avait échappé précédemment. Jésus explique très bien ce qu'est la semence, c'est la parole de Dieu. Il explique aussi ce que représentent les différents terrains, l'être humain, mais il ne dit pas qui est le semeur. En fait, Jésus est en train de taire l'essentiel. Il ne dit pas qui il est. Et par conséquent, les disciples sont invités, comme la foule qui a entendu ce récit, et comme nous aujourd'hui, maintenant, à chercher par eux-mêmes et surtout en eux-mêmes qui est le semeur. Et en y réfléchissant bien, ils vont découvrir qu'il est devant eux. Mais les disciples sont comme les scribes. Ils veulent savoir l'évangile. Mais l'évangile n'est pas une somme de connaissances ou un florilège de définitions. L'évangile est une personne à rencontrer, à écouter, à découvrir, à accueillir. Et cette personne dévoilera à chacun quelque chose de Dieu, là où il est, là où il en est. Et c'est bien ça, toute la question. De quel Dieu l'Évangile nous parle-t-il ? Est-il le même que celui qui a été transmis par les catéchismes de l'Église ? Et aujourd'hui, en quel Dieu croyons-nous ? Croyons-nous en un Dieu de la justice rétributive qui punirait les méchants en les envoyant en enfer et récompenserait les bons en les accueillant au paradis ? Certaines certitudes ont la vie dure et reviennent au galop encore aujourd'hui. Quelles images de Dieu restent-ils dans nos mémoires ? Est-il encore ce vieillard assis sur son nuage, comme l'écrit Raphaël Picon, ce Dieu figure tutélaire qui surplombe le monde pour y intervenir quand bon lui semble, qui hante encore quantité de sermons, de cantiques et de confessions de foi ? Ce Jésus, mi-homme, mi-Dieu, qui un beau jour reviendra sur les nuées du ciel pour sauver enfin le monde de sa perte ? Est-ce que nous ne désirons pas un Dieu sans barbe, rasé de tous ses oripeaux mythologiques et masculins ? Et si nous disons « croire en un Dieu d'amour, jusqu'où va-t-il cet amour ?» Et la grâce que nous revendiquons si volontiers, sommes-nous prêts à croire qu'elle est pour tous et sans condition ? Croyons-nous que l'autre est aimé de Dieu tel que je le suis, indépendamment de ce qu'il est et de ce qu'il fait ? Et lorsqu'à notre tour il s'agira de traverser l'épreuve, quelle qu'elle soit, aurons-nous assez de force pour nous libérer d'une culpabilité morbide en pensant, ne serait-ce qu'un instant, que nous sommes punis ou abandonnés ? Alors avec cette parabole, Jésus invite son auditoire à la découverte du Dieu de l'Évangile et en même temps, il le laisse libre de se positionner. Il laisse son auditoire découvrir quelle est la relation qui unit Jésus à Dieu. Il ne démontre rien, il le montre, il en témoigne. Il laisse le temps à son auditoire de s'imprégner de cette découverte sans rien lui suggérer d'autre. Il ne demande pas à la foule de le suivre, il ne lui recommande rien d'autre si ce n'est d'entendre, d'intégrer, de s'imprégner. Autrement dit, que chacun prenne le temps de faire sienne cette parabole. Dans nos vies d'église, dans nos ministères locaux de conseiller presbytéral, de conseiller d'entraide, de catéchètes, d'organistes, voire de pasteurs, là où nous sommes placés, que nous soyons enfants, ados, jeunes actifs, parents ou grands-parents, paroissiens fidèles ou paroissiens occasionnels, ce qui nous est demandé finalement, c'est que chacun, chacune fasse sien l'enseignement de Jésus-Christ. non seulement en approfondissant le côté intellectuel de l'enseignement avec une exégèse, non seulement en approfondissant la théologie des langues anciennes, mais en laissant aussi l'enseignement du Christ laisser sa trace en nous, afin de laisser sa parole nous atteindre et nous transformer de l'intérieur. Prendre le temps de laisser au Seigneur, c'est-à-dire à la personne même de Jésus, nous rencontrer, nous aussi, là où nous sommes, là où nous en sommes. De nous laisser peut-être façonner, pourquoi pas, tendrement, pour que nous devenions exactement ce qu'il veut de nous, et par voie de conséquence, découvrir ce que Dieu veut pour nous. Et ce qu'il veut de nous, c'est que nous soyons une personne capable d'aimer parce qu'elle se sait aimer. Une personne capable de transmettre ce qu'elle a reçu et ce qu'elle a compris du Christ, du Dieu de Jésus-Christ. Et en Jésus, ce n'est pas une somme de connaissances théologiques, mais un regard, une écoute, une présence. Alors, mes frères et sœurs, dans la foi comme en humanité, cette parabole nous est offerte pour qu'elle nous travaille en profondeur, qu'elle nous donne de découvrir quelles sont les raisons que nous avons de désirer Dieu et de répondre un jour à son appel, appel à transmettre ce que nous avons reçu. Jésus utilise les paraboles pour parler à notre intelligence, notre raison, mais aussi notre cœur et notre imagination. Ainsi que l'écrit le pasteur Bernard Chevalet dans son livre « La pédagogie de Jésus ». La parabole du semeur est un exemple d'enseignement entièrement verbal. Il raconte une histoire toute simple. Quelques ronces, des pierres, des oiseaux pilleurs, une terre fertile et une semence, partout la même. Un ouvrier agricole, et nous voici, sans le savoir, derrière le rideau des apparences. Alors, mes amis, dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas rien. La parabole est un poème qui nous travaille sans que nous sachions comment, à travers notre imaginaire, et nous emmène à la découverte de nous-mêmes, de notre foi, de notre humanité, simplement pour que nous soyons là, ensemble, au bon endroit, quand il faut. Amen. Je crois que c'est le moment des annonces. Non, il n'y a pas d'annonce. D'accord. Ah. Et je vais descendre.
Chers frères et sœurs, bonjour. Au nom du Conseil presbytéral, je vous remercie beaucoup, beaucoup, du fond du cœur, de votre présence, soit à distance devant votre écran, soit ici à l'Oratoire du Louvre. Et merci en particulier à tous ceux qui sont bien fidèles, mais aussi aux premiers venus, et puis à notre sœur en particulier, Marie-Claude, qui a pu venir nous rejoindre pendant 6 mois, qui a beaucoup souffert, et qui est avec nous aujourd'hui. C'est une grande joie. Bien, alors au chapitre des annonces, l'Oratoire du Louvre vous propose un nombre conséquent d'activités qui vous permettront d'approfondir notre foi. Et ça commence mardi prochain avec Béatrice Leromazir qui reviendra de ses vacances, qui toute la semaine conduira les activités qui vous seront proposées, puisque Agnès partira en vacances. Je disais bien que je pensais qu'on devait chanter avant les annonces, mais nous n'avons pas chanté, peut-être nous chanterons après. Voilà, il y a une ligne qui a sauté, mais nous allons peut-être la reprendre. Pardonnez-nous. Alors, mardi prochain, culte d'intercession avec scène donc, conduit par Béatrice Cléromazir, et donc tout à fait d'actualité, évidemment, en ce moment, de prier les uns pour les autres, et qui sera suivi d'un partage biblique. À partir de 14h à la maison presbytérale sur le thème des monstres et chimères. Ensuite, le rendez-vous hebdomadaire de jeudi pour la pause spirituelle de 12h30 à 13h30 et puis samedi matin de 10h à 11h, toujours maison presbytérale, Gilles Castelnau pourra vous initier à la lecture de l'hébreu biblique. Et puis nous nous retrouverons donc dimanche 6 mars pour le prochain culte, avec un baptême. Et donc aussi, il y aura une chose particulière dans Paris, c'est qu'il y a un semi-marathon de Paris qui se tiendra dimanche prochain. Donc si vous êtes concerné par le parcours du semi-marathon, prenez vos précautions pour venir jusqu'ici. Ça c'était pour l'essentiel des informations. Sachez aussi que chaque premier vendredi du mois de mars se tient la journée mondiale de la prière. Nous allons l'organiser, nous ici, le 27 mars prochain, mais si vous avez envie de prier vendredi, c'est l'occasion, vous pouvez aller sur le site de Journée mondiale de la prière et vous trouverez toutes les informations utiles pour cette journée-là. Il m'a été donné l'occasion de vous présenter les annonces, mais je suis votre trésorière, et donc voici 2 mois déjà de passé, fin février, accompli, mais j'aimerais vous faire un petit point financier. Pourquoi un petit point financier? Parce que le temps d'offrande qui va suivre ce temps d'annonce donc recueille tous les dons anonymes. Sachez que les dons anonymes ne sont pas suffisants pour couvrir la totalité des charges qui nous incombent, et puisque cette année, les dons anonymes n'auront couvert que 7,7% de nos charges. Alors, pour abonder davantage les besoins en fait, de l'oratoire, il vous reste la possibilité de réaliser des dons mensuels, ou des dons au fur et à mesure de vos possibilités, qui font l'objet de reçus fiscaux. Si j'ai prononcé le don mensuel, c'est pour vous dire qu'actuellement, chacun qui a pu organiser un don mensuel permet de recueillir la somme de 4 735 € par mois, alors que rien que d'avoir à payer et de procéder à la liquidation de la paye de nos personnels représente 6 600 € par mois. Voyez, on n'a même par mois pas suffisamment, donc la somme même pour couvrir ne serait-ce que les rémunérations. Alors, ces dons nominatifs, donc vous avez plein de moyens à l'oratoire de pouvoir les exprimer. Le site internet, le terminal de paiement ici à l'oratoire. Vous pouvez aussi faire des virements. Sachez que cette année, un avantage fiscal a été accordé aux donateurs des associations cultuelles, qui est fixé à 75% de votre don jusqu'à 554 euros. C'est-à-dire que si vous donnez 554 euros dans l'année, eh bien, vous aurez 75% de déduction de ce montant sur le montant de vos impôts. Et au-delà, le taux passe à 66%. Voilà, je voulais vous rappeler cela parce que le temps passe. Donc nous avons déjà deux mois d'accompli. Et je voudrais ici remercier déjà tous ceux qui ont organisé un don mensuel et aussi ceux qui ont pensé, dans la mesure de la possibilité, à les augmenter. Voilà, merci beaucoup donc de votre attention pour ce point. Je sais que c'est pas toujours très agréable que je vous parle de finances, mais c'est mon rôle, donc il fallait que je le fasse. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que nous chantons maintenant? Agnès va vous parler. Bon dimanche.
Non seulement c'est ton rôle, Juliette, mais c'est surtout ton ministère. Voilà. Alors, je suggère que nous fassions donc ce geste d'offrande. Et notre organiste Alexandre va nous accompagner musicalement pendant ce temps d'offrande. Et ensuite, je vous inviterai à chanter au cantique numéro 193, les strophes 1, 2 et 3. Voilà. Et nous continuons notre culte en prenant maintenant le chant du cantique 193 que nous trouverons dans le cantique Louange et prière. Et de ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Et nous nous unissons dans la liturgie de Sainte-Seine. Éternel Dieu de la vie, nous qui sommes réunis ce matin pour ce temps de culte, nous cherchons ta présence dans notre vie. Nous nous mettons à l'écoute de ta parole dans la Bible. Nous essayons de discerner les actes, les paroles, les engagements auxquels tu nous appelles. Et parfois, tout cela nous paraît obscur. Nous sentons monter en nous l'incompréhension, le doute, et même peut-être la peur. Mais tu places sur notre route des sœurs et des frères dans la foi comme en humanité pour nous parler, pour nous aimer, pour nous encourager, pour être à nos côtés devant toi, pour partager avec nous le pain et le vin de la scène. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ta révélation en Jésus-Christ. Donne-nous d'être miracles les uns pour les autres, annonciateurs de ton royaume et signes de ton amour. Et nous prendrons dans la liturgie, toujours au début du psautier français, le répond qui s'intitule « Pare-toi pour une fête ». Nous restons à nos places.
Thank you.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie et Père de tous les hommes, de toute culture, de toute origine, regarde notre monde, séparé par les frontières, déchiré par les guerres, défiguré par la faim, l'injustice, divisé par nos peurs, nos préjugés. Tant de migrants y errent à la recherche d'un avenir meilleur. En Jésus-Christ, tu es venu relever l'humanité. Tu as semé l'amitié et la confiance en nos cœurs. Tu nous as montré le chemin du partage et de la rencontre. Tu nous as ouvert les yeux pour nous reconnaître, frères et sœurs. Tu nous as rappelé que chacun a du prix à tes yeux. Remplis nos cœurs de ton Esprit Saint, pour que nous vivions comme tes enfants, unis dans la diversité de nos cultures. Que ton règne advienne, règne de paix, de justice et de fraternité pour tous les peuples de la terre. Éternel Dieu de la vie, nous te rendons grâce d'être venu te mêler à notre histoire, de venir là où nous en sommes et de rester tout près jusqu'au bout. Nous te rendons grâce de chercher à parler à nos cœurs, de les ouvrir à ta compréhension, de ne jamais te lasser de nous convertir à toi et de nous guérir. Continue de te mêler à notre vie, viens nous redire inlassablement que ce royaume annoncé par les paraboles est pour tous, pour nous tous, de façon inconditionnelle, et qu'il ne se dérobera pas, aussi sûr qu'un grain peut donner du fruit. Ta parole peut ressusciter non seulement la confiance, mais aussi l'espérance que rien, pas même la mort, ne peut séparer de toi. Alors c'est dans cette confiance, chevillée à nos corps et à nos cœurs, que nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous prenons la deuxième strophe du Répond. Jésus, ta voix nous convie à ce festin de la vie.
Thank you.
J'invite les conseillers qui sont pressentis pour distribuer la scène aujourd'hui. Éternel, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus, le Christ, de sa mort et de sa résurrection. C'est toi qui nous rassembles et qui nous invite. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs, pour que nous portions à notre tour cette nouveauté dans le monde. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Venez, car tout est prêt. Je vais simplement rappeler que nous passerons parmi vous, vous proposer le pain et le vin. Lorsque vous aurez communié sous les deux espèces, je vous remercierai de vous rasseoir et ensuite nous continuerons notre culte. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Prenez, mangez, prenez, buvez. Éternel, nous te remercions pour la parole qui arrive jusqu'à nous. Il y a la parabole du semeur, puis celle du bon grain, celle de l'ivraie, l'histoire du grain de moutarde et celle du levain, et encore celle du trésor et de la perle. Il y aura encore la brebis égarée, cette histoire de festin et de serviteur, 10 jeunes femmes plus ou moins sages, et le retour d'un fils prodigue. Dans ce flot continu de paraboles coule le royaume, il coule vers nous, d'image en image, de récit en récit, le royaume avance et s'accomplit, il est déjà là. Amis, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Malgré tous les bruits environnants, cette parole étrange parvient jusqu'à notre rivage. Aurons-nous les yeux pour le voir? Les oreilles pour l'entendre? Quand Jésus parle en parabole, c'est Dieu qui s'approche. Ce royaume, c'est à nous qu'il veut l'offrir. C'est dans notre histoire qu'il veut vivre. Alors cette joie, cette abondance, cette espérance, c'est à nous qu'elles sont promises. Amis, frères et sœurs, allez maintenant dans cette joie, cette abondance et cette espérance. Amen. Et je vous souhaite un très beau dimanche.